Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Tarek Obrou.
Bonjour.
Vous êtes grand imam de Bordeaux, recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux. Vous publiez un livre intitulé « Ce que vous ne savez pas sur l'islam » chez Fayard, un livre qui embrasse large. Je vais donc vous poser une première question très large. Quel regard portez-vous sur l'islam de France ?
L'islam de France est une présence qui oscille entre la crispation et l'intégration. L'islam est vécu par des individualités marquées par leur origine ethnique, par leur interprétation de la religion dans des conditions sociales et intellectuelles selon les individus. Donc, elle est polymorphe d'une certaine manière. Malheureusement, c'est la minorité agissante qui fait parler de cet islam visible qui est perçu comme une agression à la laïcité et donc... L'islam, il essaie un petit peu, à travers les musulmans, de négocier sa place entre une laïcité favorable à l'expression de la religion tant qu'il ne trouble pas l'ordre public établi par la loi et les perceptions françaises occidentales qui ont gardé des traces de défiance à l'égard de la religion générale et de l'islam en particulier.
Les cadres de cet islam de France, les dirigeants dont vous faites partie, Tarek Obrou, ont-ils perdu le contact avec leur base ?
Moi, personnellement, je ne pense pas les choses en ces termes-là. Ma fonction première, c'est de penser et de relire et de faire une interprétation à la lumière des exigences de notre époque, tout simplement. Donc voilà le premier chantier à travail encore invisible, celui de la pensée, repenser les pratiques religieuses dans un environnement très sécularisé. Bien sûr, je suis engagé dans multiples... associations culturelles et culturelles. Donc il y a une réalité, il n'est pas aussi noir que cela. Il y a une intégration qui fait son effet.
Mais lorsque vous voyez ces jeunes radicalisés dont on a vu, hélas, les méfaits il y a peu, est-ce que vous vous dites que vous avez encore la faculté de leur parler avant qu'il ne soit trop tard à ces jeunes ? Ou est-ce que pour vous, eh bien, ils sont malheureusement perdus pour un discours et des comportements raisonnables ?
Les jeunes que vous qualifiez de radicalisés, généralement, vivent à la périphérie de la société et de la communauté en même temps. Ils sont plus dans des réseaux connectifs que dans des systèmes collectifs. Et donc, la radicalisation se fait généralement par le virtuel, par des petits groupes qui se réunissent à l'écart de la communauté et de la société. Donc, ils ne sont pas visibles dans la société et dans la communauté. La radicalisation n'est pas proportionnelle à la longueur de la barbe. Aujourd'hui, on est face à un dérapage psychologique rapide de la délinquance au terrorisme sans médiation religieuse, ni interprétation, ni formation. Donc on est quand même devant un phénomène un peu particulier.
Le mot « radicalisé » semble vous faire tiquer. Est-ce que d'après vous, ces jeunes qui ont versé dans le terrorisme sont des intégristes qui ont franchi un cran supplémentaire ? Ou bien est-ce que sont des jeunes qui ont suivi un cursus complètement différent de celui de la religion traditionnelle, Tarek Obrou ?
Pour l'instant, le constat nous mène à dire que la radicalisation peut avoir plusieurs causes. Psychiatriques, psychologiques, manque d'affection, échec scolaire, une mauvaise interprétation. Mais généralement, ces jeunes n'ont pas accès à l'interprétation, ils n'ont pas de doctrine. Ce n'est pas un intégrisme pensé, ce n'est pas une approche fondamentale de la religion comme c'était le cas avec l'Al-Qaïda. L'Al-Qaïda était plus... Il recrutait pas dans les banlieues d'ailleurs, il recrutait des gens bien formés religieusement parlant. Aujourd'hui, on recrute vraiment dans des milieux qui sont très fragiles, qui n'ont aucune formation religieuse, abstraction faite de leur lecture de l'islam.
On a vu des vidéos effrayantes sur Internet où il y avait des imams, je ne suis pas capable de savoir s'ils étaient représentatifs de quoi que ce soit, mais en tout cas, semble-t-il, c'était des imams portant des discours généraux sur l'interdiction de la musique, sur le rôle des femmes qui était un rôle extrêmement ténu, c'est un euphémisme. Qui sont ces gens ? Qu'est-ce qu'ils représentent ?
Généralement, ce sont des imams amateurs qui reproduisent et qui récitent un droit canon médiéval inapproprié pour l'époque que nous vivons. Aujourd'hui, l'intégrisme, il puise ses sources d'une interprétation aujourd'hui anachronique par rapport à notre époque. des interprétations qu'on trouve dans les ouvrages classiques. Donc l'intégrisme, d'une certaine manière, puise ses sources dans les classiques, mais d'une manière sélective et éclectique. Et donc les gens qui n'ont pas de doctrine, qui n'ont pas une formation théologique solide, eh bien ils ouvrent un livre, n'importe quel livre, ils reprennent ce qu'ils ont lu, et puis ils en font un serment.
Justement, dans votre livre, ce que vous ne savez pas sur l'islam, vous essayez d'aller à l'encontre d'un certain nombre d'idées fausses. Tout d'abord sur la musique, qu'est-ce que l'islam dit sur la musique, sur l'interdiction de la musique, puisque l'une de ces vidéos qui a le plus circulé, hélas, après les attentats du Bataclan, montre qu'il y aurait une interdiction de la musique dans l'islam?
Écoutez, vraiment, c'est une question ridicule. Vous savez, vraiment, je suis très gêné de répondre à cette question tellement, tellement ridicule. Qu'est-ce que c'est qu'interdire la musique?
Ça n'a aucun
sens. Ce sont des interprétations un peu littéralistes à des hadiths du prophète, soi-disant, déconnectés de leur finalité, déconnectés de leur contexte, et parfois des hadiths qui sont contestés quant à leur authenticité. Vous savez, le problème des musulmans aujourd'hui, c'est pas la musique, c'est la faillite de la pensée, la faillite de la morale. Voilà la vraie faillite, c'est pas la musique.
Sur la place des femmes, vous avez pris des positions assez courageuse en expliquant par exemple que le voile n'était pas inscrit de toute éternité dans l'islam. Pourquoi dites-vous cela? Qu'est-ce qui vous permet finalement d'aller à l'encontre de ce qu'on peut considérer comme étant une opinion commune dans l'islam aujourd'hui, Tarek Obrou?
Je constate la démesure dans le rapport à certaines pratiques mineures et qui sont plus de l'ordre du culturel que du cultuel. Ce qui est important, c'est la pudeur. Les vêtements ne sont qu'une traduction de cette pudeur dans un contexte donné. Et donc l'islam n'est pas venu pour tailler des pantalons et des gandora et des kamis et des foulards pour les gens. Je pense que la pudeur, c'est une attitude intérieure, c'est une attitude mentale, c'est un comportement, c'est un regard, et pas un foulard. Le foulard, c'est pas une kippa, il n'y a pas d'objet cultuel. Et donc effectivement, il y a un problème de lecture, un problème de modération dans le rapport aux pratiques religieuses.
Un problème de modération, un problème peut-être aussi de rapport avec ce qui est pointé du doigt comme étant les infidèles. Est-ce qu'il y a là aussi, en la matière, un dogme? Que dit l'islam, ou que devrait dire l'islam dans le rapport aux infidèles, Tarek?
J'ai développé dans le livre, justement, le regard que nous devons porter à l'égard du non-musulman. Un homme musulman, c'est un être humain habité par le souffle de Dieu. Et il a une dignité en tant que tel, parce qu'il est habité justement par cette dimension qui fait de lui un être singulier dans l'ordre de la création, abstraction faite de sa religion. La non-croyance n'est pas un délit, il faut le rappeler. Ce n'est ni un délit théologique, ni un délit canonique. Seul est qualifié de mécréant ceux qui ont rencontré le prophète et qui ont refusé de le suivre en connaissance de cause. Ce n'est pas notre cas de figure.
Comment expliquer que parmi les infidèles, il y en ait qui posent plus encore de problèmes dans certains discours tenus par des prêcheurs de haine? Vous en parlez dans votre livre, Tarek Obrou. Le rapport aux juifs?
Quand même, c'est paradoxal. Vous savez, il y a 25 prophètes dans le Coran, 20 sont des juifs. 20 prophètes. Donc nos prophètes sont des juifs en majorité. Et donc être antisémite, c'est presque un blasphème, d'une certaine manière. Beaucoup de jeunes passent de l'antisionisme à l'antisémitisme. C'est ça un petit peu le dérapage qui se fait dans l'esprit de beaucoup de jeunes. Mais détester le juif parce que juif, le Coran lui-même dit que Dieu a choisi ce peuple en connaissance de cause. Donc Dieu se serait trompé en choisissant 20 prophètes du Coran parmi 25.
Mais lorsque vous dites ça, par exemple, à des jeunes, avez-vous l'impression de leur dire des évidences, ou bien s'agit-il d'une opinion qu'il faut aujourd'hui être courageux pour tenir?
Je pense qu'il suffit d'expliquer, les gens sont assez intelligents pour comprendre. Encore faudrait-il que les imams prennent soin de séparer les ordres, le conflit politique du conflit religieux, du conflit identitaire. Je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie pour ne pas semer la confusion entre le politique, l'identitaire et le religieux.
Y a-t-il un problème de formation formation des imams en France ?
Je pense que les imams doivent apprendre ce que j'appelle la théologie préventive. Faire attention aux prélèvements scripturaires, faire attention à un discours qui pourrait impacter négativement les esprits fragiles.
On en vient à dire que l'islam a un lien particulier avec la violence. Qu'en pensez-vous ?
Non, la violence, elle est anthropologique, elle est dans l'homme. L'islam n'est qu'un vernis pour couvrir ce substrat de violence, comme on pourrait recourir à d'autres idéologies.
Ce qui signifie qu'il y a en quelque sorte une radicalisation qui n'est pas une radicalisation liée à la religion, mais plutôt une islamisation de la radicalité, comme l'a dit Olivier Roy.
Oui, c'est en grande partie vrai.
En grande partie vrai, mais néanmoins, on ne voit pas dans les autres religions des phénomènes aussi massifs de violence. Alors comment expliquez-vous ce hiatus ?
Parce que les situations politiques, économiques, identitaires et civilisationnelles ne sont pas les mêmes. Le christianisme a accompagné ce mouvement de sécularisation, etc. Donc il a vécu cette histoire. Les musulmans sont en train de la subir d'une certaine manière. Donc ils ne sont pas restés dans leur histoire, ils n'ont pas pu pénétrer dans l'histoire des autres. Donc c'est une situation un peu délicate. L'islam est né avec la logique de l'État, avec une logique impériale, une religion qui est devenue une civilisation, laquelle civilisation s'est effondrée, et avec elle le rapport à la religion. Le démembrement de la communauté spirituelle qui était confondue avec la communauté politique, les Ottomans, etc. Donc ce démembrement, cet éclatement, cet effondrement de la civilisation a eu une répercussion négative quant à l'interprétation de la religion. Donc voilà, c'est un petit peu l'analyse macroscopique de cet effondrement qui se répercute malheureusement à travers une frustration quant à l'interprétation de la religion.
Par ailleurs, on voit l'apparition non pas d'un islam mais de plusieurs islams. On voit des fractures dans le monde musulman. Y a-t-il un monde musulman qui vous paraît plus inquiétant qu'un autre ? Y a-t-il la possibilité de fonder un islam à partir d'un pays, à partir d'un groupe
pour la majeure partie des musulmans sont calmes et n'aspirent qu'à la civilisation, à la prospérité, malheureusement, l'effet de loupe médiatique fait que il y a un rapport démesuré par rapport à cette réalité complexe et paisible, en règle générale, dans le monde musulman. 1,5 milliard de musulmans, bon, on peut pas les réduire à des groupes terroristes.
Non, bien entendu, mais lorsqu'on donne les informations chaque matin en ce moment, Tarek Obrou, on se rend compte qu'il y a une région du monde qui est en feu et qui semble aspirer en quelque sorte la totalité du globe dans ce feu qui s'y consume, c'est évidemment la Syrie et les pays environnants. On voit qu'il y a un alliage complexe entre le politique et le théologique là-bas, qu'on y comprend goutte, parce qu'il est compliqué d'éclairer en quelque sorte ce qui s'y déroule.
Là, dans ces régions-là, quand il y a des guerres, il faut chercher dans le sous-sol, tout simplement. Le pétrole, les territoires, et on mobilise ce qui reste dans l'identité de ces peuples, l'ethnique et le religieux. Tout simplement, il n'y a plus de doctrine nationaliste, il n'y a plus de socialisme, il n'y a plus de communisme. Il ne reste que ce socle qui pourrait mobiliser et recruter gratuitement des militaires qui ne coûtent pas très cher. Donc la foi est devenue un commerce pour, justement, un moyen de recruter des gens pour des guerres qui n'ont rien à voir avec l'islam et la religion en tant que telle.
Et alors l'État islamique, par exemple, qu'est-ce qu'il représente selon vous ?
Je ne sais pas. Quelle est sa doctrine ? Qui la gouverne ? Quel est son projet ? C'est la guerre totale pour une conquête de territoire et des puits de pétrole.
Est-ce qu'il y a pour vous une faculté de l'islam, en quelque sorte, à se montrer plus millénariste ? Parce que ce que l'on voit avec l'État islamique, c'est une doctrine finalement apocalyptique. Il n'est pas certain que...
Il n'y a pas de doctrine.
Il y en a une, en tout cas.
Non, il n'y a pas de doctrine. Moi. Il n'y a pas de corpus, il n'y a pas de littérature, il n'y a rien.
Comment expliquez-vous la fascination que cet État islamique exerce sur certains jeunes ? Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, il y ait une faible part des individus sur Terre qui soient prêts à mourir pour des idées, que ces idées soient précisément les idées de l'État islamique ?
Je pense qu'un certain nombre de jeunes n'arrivent pas à trouver un sens à leur vie. On leur offre un sens à leur mort, un suicide déguisé en martyr, en vérité. Donc ils veulent abréger la vie, tout simplement. On recrute dans les milieux où il y a un désespoir, une exclusion, etc. Donc on recrute dans les foyers favorables à ce genre d'embrigadement.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec certains de ces jeunes, Tarek Obrou ?
Non, ils ne rôdent pas autour de la mosquée. C'est pas possible, ces gens-là n'approchent pas les imams dits officiels.
On continuera à en parler à 8h15. Vous serez rejoint, Tarek Obrou, par Mohamed Louizi, qui est un ancien membre des Frères musulmans, qui publie un ouvrage où il dénonce un certain nombre de ses pratiques. Pourquoi j'ai quitté les Frères musulmans ?